Slate Podcast.
Bonjour, c'est encore Kate Evan de Audible. Audible, l'appli des livres audio et des podcasts, est ravie de soutenir à nouveau Transfert, le podcast qui nous tient toujours en haleine. Vous êtes prêts pour le nouvel épisode? Bonne écoute!
Vous vous apprêtez à écouter la deuxième partie de l'histoire de Jeanne, une histoire d'amour et de croyance, au micro de Sarah Lou Lepers.
Je pense que ça doit faire une dizaine de jours que je suis revenue à Paris. Et j'ai un appel de mes parents qui savent que je suis à Paris. Et à qui, en fait, moi, j'ai expliqué qu'on voulait se marier parce qu'on ne pouvait pas être ensemble sinon. La foi, sa foi, fait que ou faisait qu'on ne pouvait pas être ensemble si on n'était pas mariés. Et donc, ils m'appellent en me disant, bon, on a compris que tu étais toujours à Paris. Du coup, on se demande, ou plutôt, est-ce que vous vous êtes mariés? Et là, je réponds que oui. Et je pense qu'à ce moment-là, mon papa pleure et raccroche. Et ça va être le début de 9 mois pendant lesquels ma maman ne m'adressera pas la parole. Pas du tout, pas un mot, je crois. Et où mon papa va essayer d'être le lien entre cette nouvelle vie que j'ai et ma famille ou ma vie d'avant. À ce moment-là, je suis en 3e année à l'école de commerce. Je me suis débrouillée pour trouver une alternance à Paris, ce qui me permet de passer 3 semaines à Paris, 1 semaine en Bretagne, 3 semaines à Paris, 1 semaine en Bretagne, etc. Et toute mon énergie ou toute mon attention, elle est tournée vers cette vie que j'ai à Paris, et qui est super cool, et où je rattrape le temps perdu, et où je me construis de nouvelles amitiés, je découvre une communauté. Il y a un truc qui me frappe à ce moment-là, c'est l'entraide, ou en tout cas ce sentiment d'appartenance très très fort à une communauté. Donc à ce moment-là, je suis voilée. Et donc quand on est voilée et qu'on croise une autre fille qui l'est dans la rue, il y a toujours un sourire ou un bonjour, enfin, il y a ce truc très fort de... On se reconnaît mutuellement, quoi. Je crois qu'à ce moment-là, c'est un truc qui me plaît, d'appartenir à cette grande communauté et de construire une vie, de jouer à l'adulte un peu, je crois. Et donc, mes parents ne connaissent pas Gabriel. Ils le connaissent pas autrement qu'à travers ce que je viens présenter ou négocier à chaque fois. Et du coup, on décide d'aller les voir ensemble. C'est un week-end du mois de mars 2010. Et on se retrouve autour de la table dans la cuisine à discuter. Et là, mes parents, ils sont hyper concrets, quoi. Ils ont des questions très terre-à-terre. OK, mais et ça se passe comment? Et ça, et ça. Jusqu'à demander, OK, mais si demain on meurt, est-ce qu'elle vient à notre enterrement, quoi? Et là, Gabriel, il décide de faire un truc un peu particulier, c'est qu'il leur demande si on peut sortir. Et donc, il m'amène dehors et on discute, quoi. C'est hyper bizarre comme façon de procéder. Et on revient. Et donc, c'est lui qui parle beaucoup. Et il explique que, c'est compliqué, quoi. On est musulmans et on va pas à l'église. Et je sais que là, je me dis, bon, OK, je l'aime, mais il est pas très bon en com, quoi. Peut-être qu'on aurait pu le présenter autrement, ou peut-être... Parce que chacune de ces petites pierres qu'on met ne fait que conforter mes parents dans le fait que c'est à l'opposé de leur façon de vivre. Donc, Ça se passe moyennement bien, mais je pense qu'on n'est pas, enfin que je suis pas au bout de mes peines. Après avoir passé un peu de temps avec, et discuté avec mes parents, on décide d'aller voir mes grands-parents. On arrive et ils sont à table en train de manger. Je crois qu'ils mangent des crêpes pour pas faire dans le cliché. Et c'est silence. Ils terminent de manger. Tout le monde quitte la pièce, donc on reste avec mes grands-parents. Je me souviens de ce moment où ma grand-mère, elle demande à Gabriel s'il veut boire un truc. Et je crois qu'il dit « Oui, je veux bien un jus d'orange ». Et puis elle amène un verre d'eau et elle le pose un peu comme ça, genre « C'est tout ce que t'auras ». Alors je sais pas si c'était fait exprès ou pas, mais sur le moment, c'était un peu... C'était très représentatif même. Et donc là, s'engage une conversation où mes grands-parents, ils sont très en colère, je pense. Je pense que pour eux, c'est une hérésie, quoi. Enfin, on fait pas ça et non seulement on se convertit pas, mais pas à l'islam, et on se marie pas comme ça. Et puis, je me souviens d'un moment où ma grand-mère, elle regarde Gabriel et elle lui dit « C'est une petite dame qui est super gentille et hyper... » Et à ce moment-là, elle lui dit « Je voudrais que vous me promettiez une chose, parce qu'elle le vous voit. Je voudrais que vous me promettiez que vous n'allez jamais poser de bombe. » Et je sais pas si je dois rire ou pleurer, parce que c'est-à-dire que ça me semble à des années de lumière de ce que je suis en train de vivre. Je suis en train de vivre une histoire d'amour. Bon, alors ok, elle est un peu particulière et il y a une dimension religieuse qu'il n'y a pas forcément dans toutes les histoires. Mais on est tellement loin de ça que, à nouveau, ça me conforte encore dans le « ben, ils n'y connaissent rien ». Et ça va un peu avec le discours de Gabriel qui est de dire « voilà, il ne faut pas leur en vouloir ». Donc on repart de ce week-end-là et ça m'a pas particulièrement donné envie de passer du temps avec ma famille ou de me rapprocher ou de créer du lien. Plutôt que moins il y a de contact et mieux je me porte. Donc on est heureux, on fait des plans sur la comète, on prévoit un voyage, on décide de partir en Malaisie tous les deux. À la fin de l'été 2010. Et c'est un super voyage. La Malaisie, c'est un pays musulman. Et du coup, ça m'envoie une autre image de cette religion, de gens qui vivent de façon hyper sereine, probablement un peu moins carré ou à la lettre que ce que moi, je suis en train de vivre. Il y a des femmes qui travaillent. En fait, mon premier contact avec ce pays, c'est les policières à l'aéroport. Des femmes partout. Elles sont voilées, voilà. Mais elles travaillent et elles ont l'air hyper épanouies. Enfin, je découvre que cette communauté à laquelle j'ai le sentiment d'appartenir en France, elle existe ailleurs dans le monde, quoi. C'est hyper agréable. C'est-à-dire qu'on est en Malaisie, sur une petite île. Et donc les gens sont musulmans et et c'est pendant le mois de Ramadan. Il y a un moment où ça coïncide. Et donc les propriétaires de l'hôtel dans lequel on se trouve nous invitent à partager le repas le matin. Donc c'est, je sais pas, ça doit être à 4h ou 5h du matin. Et le repas en fin de journée où on casse le jeûne. Tout ça c'est des moments super agréables à partager, que j'aurais jamais partagé autrement. Et là j'avais l'impression de faire partie un peu de leur famille. On vivait un truc différent de tous les autres gens qui étaient dans cet hôtel à ce moment-là. Parce qu'on avait cette chance d'être musulman et donc de faire aussi le ramadan. Et donc, ils nous ont ouvert leurs portes. Et c'est un super voyage. Il y a une petite part de moi qui trouve ça un peu chiant, les moments où on est à la plage et où c'est compliqué de se découvrir s'il y a des gens. Mais c'est un super voyage. À ce moment-là, j'ai pas du tout l'intention, là où mes amis poursuivent en master, de continuer en école de commerce, parce que ça colle pas du tout avec la vie que j'ai à ce moment-là. Donc on rentre de Malaisie, et je sais pas vraiment ce que je vais faire. En l'occurrence, à ce moment-là, ça me permet d'aller passer un peu de temps avec mes parents, et du coup de profiter un peu d'eux. Avant de partir en Malaisie, ça fait presque... Ouais, ça doit faire... 7 ou 8 mois que j'ai pas eu de contact avec ma maman. Dans le sens où on s'est vus, mais on se parle pas. Alors au début, je crois que ça me va, parce que du coup, ça m'évite d'avoir à expliquer, justifier, crier, voilà. Et puis, à ce stade-là, ça devient hyper pesant. J'en dors pas la nuit ou je me réveille la nuit, ça me... Il y a un manque hyper fort. Ça devient trop, c'est trop long, c'est trop dur à ce moment-là. Et puis, on a reparlé des 9 mois qui venaient de se passer. Et elle m'a dit que... qu'elle me pardonnait. Qu'on pardonnait toujours à son enfant. Par contre, elle m'a aussi dit que... à Gabrielle, elle lui pardonnerait jamais. Je crois que ça m'était assez égal, en fait. Je crois que ce qui m'importait, c'était que moi, je retrouve ma mère et un petit bout de la relation qu'on avait. Et juste ça, ça m'allait. J'ai le souvenir d'être dans le bureau de mon père. Et il est assis à son bureau et il se met à me parler du fait que, bon, bah, puisqu'on est ensemble et que ça se passe bien et qu'on se projette, bah, ce serait peut-être bien qu'on concrétise tout ça en achetant un appartement, par exemple, ou en tout cas qu'on y réfléchisse, quoi. Et à ce moment-là, c'est la première fois qu'il se projette, enfin, en tout cas, que je me retrouve confrontée à une projection où ils sont plus dans le non, ça n'est pas possible, non, on ne veut pas, non, on n'est pas d'accord, mais dans le bon, bah, puisque ça existe. Voilà des conseils de parents. Et moi, à ce moment-là, je pense que moi, je réalise ou je m'autorise à me rendre compte qu'il n'y aura pas d'avenir ensemble. Et j'ai cette façon de le formuler à mon père en lui disant non, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que si un jour j'ai des filles, j'aimerais qu'elles puissent aller à la plage sans se poser de questions. Alors c'est un peu ironique, ou je le dis, je pense, sur le ton de l'humour, mais c'est une façon de faire passer un message, de sous-entendre quelque chose, et deux, une façon de leur dire que tout ne va pas si bien. En tout cas, c'est la première fois que je le dis à voix haute, et ouais, je pense que ça doit être les premières fois où je m'autorise, ouais, à me rendre compte que c'est beaucoup de contraintes. Moi, j'ai grandi au bord de la mer, et c'est une donnée hyper importante dans ma vie. La plage, la voile, tout ça. Et pour moi, se baigner avec un foulard, ou se baigner, ou ne pas se baigner, ou ne pas profiter de la plage, ça a été désagréable. Alors là, évidemment, j'ai ouvert une porte chez mes parents. J'ai ouvert une porte que j'ai regretté d'avoir ouvert. Parce que là, du coup, ils ont commencé un travail de « mais si t'es pas heureuse, mais si ça va pas, mais quitte-le, mais quitte-le, mais quitte-le. » Et donc, je pense qu'on était en septembre. Et en octobre, je me suis dit « bon, ok. » En effet, il y a beaucoup de choses qui me laissent penser que la fameuse boîte, elle commence à être un peu étroite pour moi. Et du coup, je me suis retrouvée face à Gabriel un jour et je lui ai dit « écoute, je peux plus. Je vais partir. » Et là, c'était comme si je revivais, ou on revivait ensemble, ce week-end où on se séparait. Et je partais, mais en pleurant et en lui montrant que j'étais triste de partir. Et lui aussi, il l'était, mais je suis partie. Et donc, je me suis retrouvée chez mes parents pendant plusieurs mois en dépression. J'avais 20 ans, 21 ans. Et je faisais rien de mes journées. Et je ne pouvais rien faire. C'est-à-dire que je ne pouvais pas me projeter dans m'engager dans quelque chose. Parce que ça m'angoissait de ne pas pouvoir repartir. Parce que je pense qu'il y avait... J'ai quitté Gabriel à ce moment-là en me disant « Bon, j'ai assez fait souffrir ma famille. Maintenant qu'on est en train de recréer du lien, je ne peux pas les décevoir, quoi. » Donc, bon, allez, je le quitte. Et je pense que je n'étais pas du tout préparée à ça, pas du tout prête. Et que j'en avais probablement pas envie. Je suis allée voir... une psy, pas très loin de chez mes parents. Je crois que c'était une psy pour enfants. Mais donc, et donc, je lui ai un peu raconté l'histoire. Et son constat, elle, il a été que, ben, mais retournez-y. Enfin, retournez parce que vous avez juste pas été au bout de l'histoire, en fait. Vous avez éteint la télé en plein milieu du film. Il vous reste des choses à vivre. Et tant que vous les aurez pas vécues, ben, vous serez dans cette espèce d'état de « je peux m'engager à rien » et voilà. Donc, je pense qu'on devait être en novembre, décembre. Évidemment, j'étais toujours en contact avec Gabriel. Et je crois qu'à ce moment-là, j'étais dans un... Ouais, je pense que je lui avais déjà dit que je reviendrais. D'ailleurs même, tout ce temps, ensemble, on avait vécu chez sa maman. Et à ce moment-là, quand j'étais chez mes parents et quand je lui ai dit que j'allais revenir avec lui, de prendre un appart. Et lui, il cherchait un appart pour qu'on emménage ensemble. Le temps que j'ai passé chez mes parents, j'ai recommencé à sortir, à faire un peu la fête avec mes copines qui se disaient « bon, bah, on va lui changer les idées ». Et c'est des trucs que je faisais plus du tout pendant l'année et demie qui venait de s'écouler avec Gabriel. Alors évidemment, il y avait une dimension, il était là et il me rappelait pas à l'ordre, mais le discours était « bon, bah, voilà comment on vit et voilà comment ce en quoi on croit nous dit de vivre voilà. ». Et c'était très à la lettre. C'était très... pour chaque question qu'on se pose dans la vie, bah, on a la réponse quelque part de comment on doit faire. Ce qui est hyper facile, parce qu'on n'a pas de questions à se poser. Parce que si on est en recherche d'un cadre très précis, il existe et il est là. Donc j'étais dans cette espèce d'ambivalence de ben, je parle à Gabriel, on se projette dans la suite, et en même temps, je commence à poser les bases de ce que j'étais. D'aimer la relation avec les autres, d'aimer faire la fête, d'aimer sortir, d'aimer m'habiller, etc. C'est difficile de repartir parce que ça veut dire à ma famille « bon, ben, j'y retourne ». Et du coup, je profite d'une semaine où ma mère n'est pas là. Je ne sais pas si c'est conscient ou inconscient, mais elle est partie plusieurs jours en voyage et je profite de ce séjour-là pour repartir. Donc, je retrouve Gabriel et je suis super heureuse de le retrouver lui. Un peu moins ce qui va avec, mais je suis super heureuse de le retrouver lui et donc on emménage. Cette année-là, je ne travaille pas. Donc, j'ai passé quelques mois chez mes parents et donc là, j'arrive à Paris et la question se pose de est-ce que... Et là, Gabriel, il me dit, je gagne suffisamment bien ma vie pour que tu n'en aies pas forcément besoin. Alors, je me trouve une activité. Je donne des cours via Acadomia, ce qui me permet d'avoir une petite activité. Mais très vite, je tourne en rond et je crois que c'est à peu près à ce moment-là que je vais m'inscrire sur Twitter. Et ça, pour moi, c'est une espèce de fenêtre sur l'extérieur. Parce que du coup, je discute avec des gens que j'aurais probablement jamais rencontrés à ce moment-là de ma vie. C'est la période Twitter de live tweet des émissions. Donc je regarde une émission à la télé et on en parle en direct, on rigole. Et donc, j'ai toujours ces moments avec Gabriel où je suis heureuse d'être avec lui. Et puis dès qu'il n'est pas là, en fait, je commence à avoir une autre vie. Donc je commence à me mettre à lui mentir un peu, pour aller passer un week-end chez une copine et pour faire la fête en disant qu'elle va pas bien et qu'il faut que je passe du temps avec elle parce que sa maman est malade et hop, je pars chez ma copine et le vendredi soir on sort et le samedi soir on sort et le dimanche soir on sort et j'ai soif de vivre, enfin c'est les sorties, la fête et hop, de retourner dans ma vie avec Gabriel. Et puis parce que à Paris je tourne en rond, je me mets à faire des allers-retours chez mes parents. Je passe un mois à Paris et quand j'étouffe, et ben hop, je vais chez mes parents et je passe une semaine, 15 jours avec eux. Et puis quand j'en peux plus d'être là-bas parce qu'être chez ses parents à 21 ans, il y a vite une limite, et ben je reviens à Paris. Et hop, il y a presque un an qui passe comme ça, où je fais des allers-retours et où petit à petit, je commence à avoir une double vie. Ça commence à me peser un peu. Les règles. Ça commençait à me peser d'être voilée. C'est-à-dire que je me suis retrouvée dans des situations un peu délicates. J'ai l'impression d'être un ovni où je pars de chez moi et je suis entièrement couverte de la tête aux pieds. Et où, au détour d'une rue, je me retrouve habillée comme une jeune fille de 21 ans qui habite à Paris et qui fait attention à comment elle s'habille, qui est bien coiffée, qui a le dernier sac à la mode Et si quelqu'un m'avait vu entrer dans cette rue, il n'aurait aucune idée que je suis la même personne qui vient d'en ressortir. J'invente des excuses pour pouvoir vivre une vie de jeune à Paris, tout court, parce que mes amies sont étudiantes, en tout cas pour l'une d'entre elles à Paris, qu'elle a son petit appartement à côté du métro Montgallet. Et même si j'habite à une porte de Paris et donc pas très loin, j'invente des excuses pour pouvoir aller passer le week-end chez elle et on fait la fête. On fait la fête jusqu'à plus soif, c'est le cas de le dire. On fait n'importe quoi. On enchaîne le vendredi soir au social club, le samedi soir au showcase. Enfin, on va à une soirée, je me rappelle de ça, une soirée où on est allé masqué, enfin, ou déguisé, et on est dans le noctilien, il est 6h du mat, et on est maquillé, déguisé. Enfin, c'est juste, je rattrape. C'est-à-dire qu'en l'espace d'un week-end, de temps en temps, je compense cette vie d'adulte dans laquelle je me suis installée. Et du coup, le dimanche, j'appelle Gabriel pour qu'il vienne me chercher. Il vient me chercher en voiture. Et donc, au moment de le retrouver, hop, je me voile et c'est reparti. Et je rentre chez nous. Lui, il ne veut pas voir, je pense. Je pense que j'excelle dans cet art d'avoir une double vie à ce moment-là. Mais je commets des erreurs en rentrant de cette soirée. Mon portable l'appelle. Et donc, il y a un message sur son répondeur de bruit, de ma part, de bruit, la nuit, de voiture, probablement de talons. Enfin, mais voilà, n'en parle pas. Et je ne sais pas si c'est ce week-end-là ou un autre, mais après être rentrée, dans les jours qui ont suivi, de mon sac à main est tombé un ticket sur lequel est écrit Social Club. Et dans mon cerveau, ça tourne très, très vite. C'est-à-dire qu'il faut que j'ai très, très vite une explication à ça. Et au moment d'expliquer, il me dit « Ah, mais oui, c'est quand on est au Quick et que t'as l'offre repas plus ciné. » Ça s'appelle Club quelque chose. Et oui, ah bah oui, exactement. C'est exactement ça. Et voilà. Je pense qu'il veut pas voir. Je pense qu'on a tous les deux souffert de s'être séparés et que c'est plus facile de s'épargner la séparation quitte à mentir pour moi ou à se voiler la face pour lui. Ça a une limite, c'est que mes copines, elles travaillent ou qu'elles sont encore étudiantes et que, ouais, que je tourne vite en rond. Donc, fin 2011, donc je suis toujours sur Twitter et j'y passe beaucoup de temps parce que c'est vraiment ce lien avec la société qui me manque à ce moment-là. Sur le réseau social, il n'y a pas de... Il y a qui on a envie d'être. Twitter, à ce moment-là, c'est pour moi, je rigole. J'ai vraiment le souvenir d'être devant ma télé, devant la première saison de L'amour est aveugle, où Nabila a donc fait sa première apparition à la télé, où en fait, le concept, c'est des gens sont dans le noir et discutent, échangent, et ils doivent décider si oui ou non, ils envisagent une histoire ensemble. Donc, on passe par des moments incroyables où ils se touchent, et de commenter ça via Twitter, j'en ai des souvenirs de hurler de rire, quoi. Parce que c'était juste trop drôle. Ça me changeait les idées, vraiment. Il y a notamment ce garçon avec qui on faisait souvent des blagues et on a décidé d'aller boire un café. Et donc, on a dû se rencontrer au tout début de l'année 2012. Il faisait hyper, hyper froid. Il a débarqué avec des mitaines. J'ai trouvé ça drôle et moche. Et donc, on a bu un café, il m'a raconté sa vie. Moi, je lui ai un peu parlé de la mienne, sans trop rentrer dans le détail. Plusieurs fois, il m'avait proposé de venir à des soirées ou d'aller boire des verres le soir. Et à chaque fois, j'esquivais un peu, parce que c'était compliqué. Et il avait fait une ou deux fois la blague de « Mais quoi, hein, t'es enfermée, t'es... » Ça me faisait sourire jaune. Et donc, on a bu un café. Et pendant plusieurs semaines, on a discuté par message. Et à ce moment-là, j'étais chez mes parents pour un nouveau séjour de mise au vert. Et on a décidé qu'à mon retour à Paris, on se ferait un apéro, on boirait des coups, et puis après, je rentrerais chez moi. Et donc, je suis rentrée à Paris et j'ai débarqué chez lui avec ma valise. Et puis, on est allé dans un premier bar, puis dans un deuxième, et puis on est revenu chez lui, on a bu des coups. Et c'était une super soirée, et je pense qu'on a un peu trop bu. Et j'ai été très, très malade. C'est-à-dire que le lendemain, en me réveillant, j'ai vomi partout. Et là où je devais repartir, j'étais presque trop malade pour repartir. Donc, je m'attendais un peu à ce qu'ils me mettent un coup de pied aux fesses et qu'ils me disent « Non, mais je sais pas te tenir, quoi. » Et en fait, non, il a tout nettoyé, il s'est occupé de moi, il allait me chercher à manger. Et puis là où c'était censé être une soirée, en fait, c'est devenu un jour, deux jours, puis trois jours. Et moi, je découvrais une autre facette de Paris, d'avoir mes soirées de libre. Il avait un scooter et ce sentiment de liberté. Je nous revois sur le scooter, rue de Rennes. Et c'est l'hiver et pourtant le ciel est juste magnifique, un peu comme un coucher de soleil en été où le ciel est rose. Et même si j'ai un casque sur la tête, cette sensation de les cheveux dans le vent. Et voilà, c'est vraiment le grain de folie et les découvertes. Ça a été décisif. Et puis au bout de 3 ou 4 jours, j'ai commencé à sentir qu'il y avait un espèce de rapprochement qui s'installait. Et donc j'ai essayé d'éviter, dans le sens où je ne me retrouverais jamais face à face avec lui, pour éviter quoi que ce soit. Et puis, bah, il a quand même fini par se passer ce qui devait se passer, et on s'est embrassés. Et je crois que j'ai été assez heureuse à ce moment-là, que ça arrive. Et puis très vite, je me suis dit, ok, bon, d'abord, il va falloir que j'aille régler ma situation, et puis ensuite, on verra. Sauf que je lui ai déjà expliqué qu'en fait, je suis en train, depuis un an ou deux, de régler mes problèmes. Donc, il voit très très bien que là où je vais, c'est probablement retourner dans mes problèmes et ne jamais en sortir, quoi. Et je pense que lui, il est juste pas dupe du tout. Je pense qu'il se dit, j'ai pas grand-chose à perdre, parce qu'on se connaît pas. Et ce garçon super sociable et super gentil m'a montré une autre facette de son visage. Et là, je me suis fait pourrir. Mais littéralement pourrir. C'est-à-dire qu'il m'a dit, mais t'es complètement conne. Enfin, t'es stupide. T'es en train de gâcher ta vie. T'es en train de passer à côté de ta vie. T'as une super famille, de ce que tu me dis. T'as des capacités intellectuelles. Enfin, t'es pas complètement stupide, quoi. T'es jolie. Et juste, t'es en train de gâcher ta vie. Et ça a duré, je pense, près d'une heure, où il m'a pourri. Et il m'a dit, mais prends-toi en main, enfin, prends ta vie en main, t'as pas de travail, t'étais dépendante de quelqu'un, financièrement, émotionnellement, enfin, juste... Et le fait que ce garçon que je ne connaissais pas il y a encore quelques jours, avec qui je passais mes premiers jours, soit capable de mettre à la lumière ce que j'étais en train de vivre, et ce que probablement mes amis, ma famille m'avaient dit, ça m'a piqué. Et puis surtout, il m'a dit, prends ton courage à deux mains, la win, la patate, vas-y, et tu verras. Enfin, ça ne pourra qu'aller mieux dans ta vie. Et puis il a précisé que si j'avais besoin d'être accueillie ou de... Bah, il était là. Et du coup, j'ai pris mes valises et je suis rentrée chez moi. J'ai retrouvé Gabriel, qui était un peu la bouche en cœur, parce que je raconte ce que moi, j'ai vécu. Mais il y a aussi ce que lui vivait. Et je pense que lui, il vivait une vie très paisible avec sa femme qui, bon, bah, s'ennuyait un peu dans la vie. Donc parfois, elle était là, parfois, elle était chez ses parents. Mais je pense qu'il était à mille lieues d'imaginer ce que moi, je vivais vraiment. En partie parce que je ne le lui ai pas montré et que je ne lui ai pas laissé voir les doutes parce que je savais que d'exposer mes doutes, c'était probablement mettre fin à la relation quand j'étais moi pas prête à le faire. Donc je pense que c'était assez égoïste comme façon de procéder, mais en tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé. Et donc je suis arrivée, et puis on s'est retrouvés, on a un peu discuté. Et je me suis vue me réinstaller dans cette vie-là et repartir. Et je me revois aux toilettes en train de me dire « Non, stop. » Enfin, c'est maintenant ou jamais, quoi. Ce que m'avait transmis ce garçon que je venais de quitter, c'était une boule d'énergie et elle était encore là. Et du coup, je me suis assise en face de Gabriel et je pense qu'il sentait qu'il y avait un truc qui n'allait pas parce que je n'étais pas forcément très agréable et je lui ai dit que c'était terminé. Je lui ai dit que c'était terminé, que j'avais plus envie de continuer cette histoire, que c'était... Il fallait que ça s'arrête. Et je pense qu'il a commencé à ce moment-là à être dans l'émotion, à avoir les larmes. Et je me suis dit qu'on s'en sortirait jamais, qu'on avait déjà essayé 2 fois et que l'émotion, elle avait toujours été trop forte et elle avait gagné. Du coup, j'ai changé d'approche. Je lui ai dit que ça servait à rien de pleurer, que je pouvais juste plus le voir, qu'il m'insupportait. Et ça m'a semblé être nécessaire à ce moment-là de me dire il ne doit pas y avoir de place à l'émotion et au regret et à « ça va être dur, mais ». Non, c'est terminé, point. Il a été surpris, il m'a dit « ok », il a fait un sac, il a dit « ok, je vais dormir chez ma mère, enfin, je te laisse réfléchir », et il est parti. Et là, je me suis dit vite. J'avais pas défait ma valise, mais j'ai rempli un sac. Je me suis dit, il faut que je parte parce que j'ai pas envie d'avoir à discuter, j'ai pas envie d'avoir à justifier, j'ai pas envie de tomber dans... Non, et je suis partie. Et je me suis retrouvée dans un taxi avec mes affaires, une partie de mes affaires, et un espèce de sentiment d'euphorie. Je pense qu'il y a de l'adrénaline, beaucoup, d'être passé à l'acte. J'ai le souvenir très fort de rigoler, quoi. Je ne sais pas ce qui m'attend, mais j'ai hâte. Il y a un truc en moi qui acte à ce moment-là, que j'ai plus envie d'avoir à me voiler. J'ai décidé, quoi. Et quand je quitte l'appartement avec mes affaires et que je suis un peu dans la précipitation, et que je ferme la porte, c'est terminé. Et quand je pars, je laisse tout ce qui ressemble ou s'apparente à un voile dans l'appartement que je quitte. Parce que j'anticipe que ça n'aura pas sa place dans la suite de ma vie. Je crois qu'à ce moment-là, j'ai appelé ma maman et je lui ai dit « bon, ben, ça y est, j'ai quitté Gabriel. » Et je riais. Et puis mon deuxième appel, il a été pour ce garçon qui m'avait proposé son aide. En lui demandant si sa proposition tenait toujours. Il m'a dit oui. Je lui ai dit que j'étais en route. Puis avant de raccrocher, je lui ai demandé s'il pouvait descendre parce que j'avais pas de quoi payer le taxi. Ce qui était un peu gonflé. Mais... Et donc, il m'a accueilli chez lui et il m'a dit très vite qu'il me laissait 3 semaines. 3 semaines pour trouver un appart, trouver un travail, ou rentrer chez mes parents. Enfin, 3 semaines pour retomber sur mes pieds. Je me suis retrouvée toute seule, sous la douche. Les toilettes et la douche, c'est des moments où on est face à soi. Et où je me suis dit, t'es toute seule, face à toi-même, bah, c'est le moment. Si ça va pas, il faut que je le sache, quoi. Et donc, je suis allée chercher profond, à l'intérieur de moi, la moindre trace de regret ou de... Et j'en ai trouvé aucune. Aucune. J'étais juste sereine et heureuse. Et alors, j'ai mis à profit son aide, dans le sens où en 3 semaines, j'ai effectivement trouvé un travail... trouver un appartement. Et puis, on s'est mis ensemble, lui et moi. Et 7 ans après, on est mariés et on a une petite fille. Cette nouvelle page là, dont je parle, cette nouvelle histoire, ce nouveau travail, c'est un début ou c'est un commencement, une renaissance où je me sens alignée, complètement alignée avec moi-même. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'histoire de je suis en train d'essayer de composer avec ce que les autres aimeraient que je fasse ou comment est-ce que Gabriel voudrait qu'on vive notre vie, comment est-ce que mes parents voudraient que... C'est juste moi qui m'écoute et qui... Juste je vis. Pendant 2 ans, je prends le temps de réapprendre à vivre seule, même si je suis en couple. Donc c'est la première fois que je travaille pour payer mon loyer. Et là, je suis dans une relation où les codes sont complètement différents. Ce garçon avec qui je commence une histoire, il a plein d'amis-filles, il sort beaucoup, il fait la fête, il a une vie sociale hyper fournie, il est proche de sa famille. Sa famille, elle a... immigrés. Ils sont de culture ou de tradition musulmane et du coup, il a une histoire avec laquelle il est hyper à l'aise. C'est quelqu'un qui croit en Dieu et malgré ça, sa façon de vivre sa religion n'a rien à voir avec celle de Gabriel. Rien à voir. C'est-à-dire que là où Pour Gabriel, c'est important d'en parler. C'est important que les gens sachent, que ça soit visible à l'extérieur. Et là, à l'inverse, c'est pas du tout ça qui drive la vie. C'est pas du tout la démonstration visible ou publique. On est vraiment dans une autre approche. C'est très intime et personnel. Les autres n'ont pas besoin de le savoir. C'est pas parce qu'on le montre aux autres que ça a de la valeur ou que ça existe. C'est un peu comme l'instrument de musique. On peut donner le même instrument à deux personnes et ils en joueront différemment. Il peut en sortir une symphonie, un opéra, et puis il peut en sortir un truc qui ne plaît pas à tout le monde. Quoi. Ou c'est un peu ce que ça m'évoque. C'est-à-dire que l'instrument en lui-même, si on le pose dans un coin, ne jouera pas tout seul. Et là, c'est un peu ce qui se passe à ce moment-là. C'est que j'ai eu l'habitude d'une mélodie, et là, je me retrouve avec une autre musique de fond, vraiment. Et ouais, aujourd'hui, la question de la liberté est centrale dans cette histoire, pour moi, dans le sens où c'est ce qui a fait que ça n'a pas marché. C'est ce qui a fait que j'ai dû partir, c'est ce qui a fait que je ne m'y retrouvais pas. Sauf que je suis aussi très alignée avec le fait que la liberté, le curseur de la liberté n'est pas le même pour tout le monde. Et là où, pour moi, la liberté passe par ces points-là, pour d'autres, pas forcément. Parce que moi, j'ai rencontré des gens qui étaient très à l'aise avec ces règles. J'ai rencontré des filles qui n'avaient ni père, ni mari, ni frère, qui s'étaient converties toutes seules, qui étaient très heureuses dans leur vie, et c'était ça leur liberté. C'est juste que moi, à ce moment-là, comme l'a dit ce monsieur que j'ai rencontré, la boîte, elle était juste devenue trop étroite pour moi. Je pense qu'une dimension importante de cette expérience, c'est l'âge auquel je l'ai vécu. J'aurais probablement pas eu la même détermination, la même motivation à battre la montagne, quoi, si je l'avais vécu à un autre âge. Je pense que le vivre à l'adolescence et dans cette période de conflit, d'expression de soi, quoi, ça a forcément joué. Le fait que cette expérience elle ait été aussi difficile et aussi forte dans tous les sens du terme, que ce soit dans l'aspect traumatisant qu'ont pu vivre mes parents ou qu'on a mutuellement vécu, ça a préparé le terrain, en fait. C'est comme si le volcan avait... c'est exactement l'image qui me vient. C'est l'éruption du volcan, et ça a tout détruit. Et je crois qu'on dit que ça rend encore plus fertile. Ben, c'est exactement ça. Si j'avais pas vécu cette expérience, ils auraient accueilli mon mari, avec lequel je vis aujourd'hui, différemment. Et probablement qu'ils se seraient arrêtés à cette histoire de culture ou de religion différente, ou posé des questions, en tout cas, qui aujourd'hui se sont pas posées du tout. Évidemment, cette histoire, elle a forgé ma personnalité, elle m'a rendue beaucoup plus ouverte d'esprit. Et si je n'avais pas vécu cette expérience forte, traumatisante, je n'aurais probablement pas pu vivre l'histoire que je vis aujourd'hui. C'est-à-dire que ça a permis un alignement de planètes. Aujourd'hui, je vis une histoire où on a construit cet amour brique par brique, et il n'était pas forcément si évident que ça au départ, ni pour lui, ni pour moi. Et on a construit une histoire très solide et durable. Et que je suis hyper reconnaissante pour la main tendue. Alors que j'ai saisi. Mais je pense que ça n'aurait pas été la même histoire, ça n'aurait pas été le même dénouement, ça n'aurait pas été aussi incroyable, ça n'aurait pas été aussi chouette comme vie aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu cette main tendue. Et ça, c'est un truc pour lequel je suis hyper reconnaissante.
Vous venez d'écouter la deuxième partie de l'histoire de Jeanne. Cet épisode a été réalisé par Sarah Lou Lepers et la musique a été composée par David Aklin. Il a été mixé par Jean-Baptiste Aubonnet. Maureen Wilson était à l'édition et à la coordination. Transfert est un podcast de Slate.fr produit par Louis Media. J'espère que cet épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à commenter sur les réseaux sociaux, sur Apple Podcasts et à suivre Louis Media et Transfert sur Instagram. Et surtout, n'hésitez pas à nous écrire, à nous envoyer vos histoires. On adore recevoir vos messages à hello@louismedia.com. À très vite.
C'est encore Kate Evan de Dible. Cette écoute vous a plu? Alors venez découvrir notre catalogue sur audible.fr. Essayez, le premier livre audio est offert.